que dire pour choisir, je dirais, un thème, un message, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que la semaine dernière à Châtenois, j'ai été vraiment frappé par ce que nous a partagé Pierre-Yves hier sur l'Ancien Testament, sur les prophètes. Et ça m'a remémoré une formation qu'on a fait à FBSE sur les prophètes. Donc ce matin, j'ai envie de vous partager ce que j'ai retenu du livre d'Amos. Donc nous allons être sur l'Ancien Testament. Et merci à Christian pour sa présentation sur la création, sur Genèse. Dieu a créé toutes choses parfaites, mais l'homme a, je dirais, péché, s'est séparé. Là, nous sommes à un temps où Juda et Israël sont séparés, et des temps de guerre, des temps de difficultés. Je voudrais partager avec vous des versets 1 à 5 d'Amos 1. Versets 1 à 5. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit : De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galad sur des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison d'Azaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bikak Avan les avant, les habitants, et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Tout d'abord, qui est Amos ? Amos, c'est un Judéen habitant le royaume de Juda. Juda, c'est le sud, qui a pour capitale Jérusalem. Il est éleveur de bovins et cultivateur de sycomores, les figuiers sauvages. Ce n'est pas un prophète professionnel, si toutefois il existe des professionnels, des prophètes professionnels. Mais justement, qu'entend-on au sens biblique de ce qu'est un prophète? Il y en a qui peuvent me répondre, puisqu'il était à Châtenois la semaine dernière. Ah, je vais vous aider, parce que, puis même, j'ai vraiment pas eu tous les éléments, j'ai pas tout noté de ce qu'avait dit Pierre-Yves, mais un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, pour le présent et pour le passé. Amos est envoyé par Dieu vers le royaume du Nord, Israël, dans les dernières années du roi Jéroboam II, en 793-753 avant Jésus-Christ. Le contexte historique général de ce livre se situe dans une période calme, de stabilité et de prospérité. La Syrie, capitale Damas, est affaiblie par la Syrie, elle-même agitée par des tensions internes. Donc c'est vrai que là-haut, ça cartonne. Jéroboam II, donc du territoire d'Israël, a pu reconquérir les territoires dont la Syrie s'était emparée, et le royaume du Nord retrouve quasiment les frontières du temps de David et de Salomon. Parce qu'à cette époque, effectivement, la Syrie attaquait Israël. Mais quand on entend ce que dit Amos, Amos parle, je dirais, parle pour les peuples. Il dit aux peuples voisins d'Israël qu'ils vont être détruits. Et effectivement, à ce moment-là, la Syrie, qui est affaiblie par la Syrie, elle-même agitée par des tensions internes. Et la prophétie de Amos 1 se réalise pendant la vie du prophète. L'essor économique, les échanges commerciaux laissent penser que c'est la meilleure époque qu'aura connue le royaume du Nord. Alors vous allez me dire pourquoi Amos, qui vient donc du territoire du sud, donc de Jérusalem, va dans le territoire du Nord pour faire sa prophétie, puisque finalement tout se passe bien, puisque Le royaume du Nord reconquérit tous les territoires qu'il avait perdus. Mais malheureusement, cette prospérité ne bénéficie qu'à la classe dirigeante, qui s'enrichit, accumule, fait la fête, est euphorique en pensant que l'Éternel est avec eux. Amos les prévient de la part de Dieu. Nous pourrons lire par exemple dans Amos 5, verset 14. Il est dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Vous aussi, on le voit en Amos 6, verset 1. « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grand de la première des nations auxquelles vous va la maison d'Israël. » Donc voilà comment on peut vivre les choses. Actuellement, le territoire du Nord a reconquéri ce qui avait été pris par les Syriens. Donc il y a une certaine tranquillité dans le pays, on peut le dire. Eh oui, le roi Jéroboam, il se la coule douce, tranquille, tout va bien, pas de problème. Malgré ces avertissements, les grands abusent de leur pouvoir. La justice dans les tribunaux est corrompue. Les pauvres sont exploités et opprimés. Dieu, par la bouche d'Amos, prévient ses grands qu'ils seront jugés sévèrement. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut représenter Amos? Eh bien voilà comment on peut le représenter. Amos, il vient dans ce territoire du Nord et commence à les prévenir. Vous êtes tranquilles les gars? Mais moi je vous préviens. Et on peut lire dans Amos 8, verset 4 à 10. Amos 8, verset 4 à 10. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui urinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fards, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elles ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurerai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Amos critique la corruption sociale. On le voit bien sur le schéma, il n'a pas l'air très content. Il critique la corruption sociale, la corruption politique, la corruption religieuse de ce royaume du Nord. Il leur demande de changer et de chercher Dieu, de pratiquer le bien. Il critique leur fausse sécurité. En Amos 5, verset 18, il est dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Ils critiquent leur culte cultuel, sans justice sociale et sans idolâtrie. Avec idolâtrie, pardon. En Amos 5, versets 21 à 27, il est dit, et c'est malheureux d'entendre ça, puisque quand on a entendu ce matin le récit de la création, Dieu a tout fait pour l'homme, et là l'homme a méprisé Dieu. En Amos 5, versets 21 à 27, il est dit, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, et je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme au courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » M'avez-vous fait des offrandes, des sacrifices pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez dans la tente de votre roi le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captif de Damas, de l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amos annonce le jugement de Dieu. C'est ce qui va se passer, je remets la carte là. Mais quelques années après, invasion militaire. Donc les Assyriens attaquent le royaume du Nord, prennent Samarie. Massacrent la population, les déportent. En Amos 6, versets 7 à 14, voilà pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs. Donc il est dit, c'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur éternel l'a juré lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Et cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe, vous vous réjouirez de ce qui est néant. Vous dites, n'est-ce pas notre force que nous avons acquis par la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée d'Amat jusqu'au torrent du désert. Et c'est ce qui s'est passé avec l'invasion de la Syrie. La catastrophe annoncée a eu lieu quelques dizaines d'années plus tard, après Amos, en 722 avant Jésus-Christ. Les Assyriens ont envahi le pays, se sont emparés de Samarie et exilé la population en Assyrie. On peut le voir aussi dans le livre, deuxième livre des rois au chapitre 17. Donc voilà un petit peu tout ce qui se dit sur les révélations, sur les prophéties d'Amos. Concernant la composition du livre d'Amos, ce livre d'Amos d'ailleurs semble être le premier livre, le premier prophète qui nous a délivré un livre. Il est possible donc de décomposer le livre d'Amos en trois parties. La première partie, et là c'est marqué en anglais, donc ça c'est bien, mais première partie, c'est un recueil de messages pour les nations. Donc les nations qui environnaient Israël, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, et pour Israël. Ce sont des accusations contre les nations autour d'Israël et contre Israël. Chose qui est importante de savoir aussi, c'est que je vous ai parlé effectivement de la destruction du Nord, donc de la prise de Samarie, mais on voit dans tout le livre des prophètes qu'en fait, la Syrie qui attaque le royaume du Nord commence à tourner autour de Jérusalem. Ils n'arrivent pas à prendre Jérusalem, et c'est ça la grandeur du Seigneur, et vraiment, moi je suis frappé par cela, c'est que Jérusalem a résisté vraiment jusqu'au bout. Il s'est même repenti à un moment. Jérusalem a failli tomber, le peuple s'est repenti, Dieu est revenu sur sa décision, il a laissé tranquille Jérusalem, et quelques années après, malheureusement, l'homme a continué à pécher, et Jérusalem a été pris aussi par la Syrie, et tout le peuple déporté. Mais c'est important de voir ce qui s'est passé dans cette région. Donc la composition du livre d'Amos, donc j'ai dit la première partie c'est effectivement un recueil de messages pour les nations et pour Israël. La deuxième partie du chapitre 3 au chapitre 6, ce sont des messages pour Israël et ses responsables. Dieu rappelle à Israël qu'il les a choisis, et on l'a vu tout à l'heure aussi avec le récit de la création, il les a choisis parmi toutes les familles de la terre, on le trouve en Genèse 10. Et c'est pourquoi il les punira à cause de leurs péchés. Une phrase qu'a dit Michel Sommer à un moment à FBSE, c'est il nous a expliqué qu'un grand appel et de grandes responsabilités entraînent de grandes conséquences. Et c'était les conséquences pour le peuple d'Israël et pour Jérusalem plus tard. Le troisième et la dernière partie du chapitre 7 au verset 9 regroupe les visions d'Amos, parce que Amos a eu plusieurs visions. Que peut nous enseigner ce livre d'Amos pour nous chrétiens aujourd'hui? Il nous apprend que Dieu accorde à la justice sociale et à nos pratiques qui doivent être réorientées en faveur des pauvres au niveau local et mondial. Il nous apprend que Dieu accorde à la justice sociale des choses importantes et que nos pratiques doivent être orientées en faveur des pauvres au niveau local et mondial. Que faire de cette annonce massive du jugement de l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on doit faire des prédications par la peur? C'est vrai que quand on lit le livre d'Amos, moi ça m'effraie, ça me fait peur. Mais est-ce qu'on doit annoncer ces choses terribles? Et quelle place au jugement dernier dans nos prédications? Ou bien ne doit-on pas revenir complètement au Dieu de l'Alliance, à Jésus et à son enseignement? Voyons-nous une situation comme celle vue par le prophète en son temps, au-delà de nos sécurités, de nos prospérités? Avons-nous le courage d'annoncer, de dénoncer, et peut-être de déranger d'abord l'Église, puis largement tout le peuple, tout en restant solidaire de nos contemporains et crédibles? Tout en ce moment laisse à penser que le peuple de Dieu est persécuté, que le peuple de Dieu est visé. Comme en son époque, à l'époque d'Amos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les peuples autour étaient touchés. On avait des bruits de guerre, la Syrie. Mais qu'est-ce qui était visé par cela? C'était Israël. Israël, c'était le cœur de la cible. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes ciblés aussi par tout ce qui se passe dans ce monde. Toutes les guerres. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans notre pays, nous sommes dans un pays de prospérité, de stabilité politique, de richesse. À l'époque, c'était le cas. Même si c'était une minorité, et encore aujourd'hui, c'est peut-être une minorité qui a les richesses. Mais cela a accentué le sentiment de fausse sécurité. J'aime l'humilité du Seigneur dans sa création. J'aime l'humilité du Seigneur aussi quand il a envoyé son Fils pour nous, pour prendre sa place pour nos péchés. À l'époque, l'orgueil avait pris la place de la dépendance envers Dieu. Il y avait un orgueil hautain qui rendait le peuple aveugle sur ses propres fautes. Il faut remarquer que c'est effectivement un schéma récurrent dans l'histoire du peuple. Dieu souverain va juger son peuple, mais non sans miséricorde. On peut le voir dans les derniers chapitres d'Amos avec ses différentes visions. La première vision, c'est la vision des sauterelles et du feu. Dieu n'envisage pas un jugement qui exclut toute espérance de survie. Dieu répond aux supplications d'Amos. Et cela me fait penser à un verset du livre de Jacques qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Cela me fait penser aussi au fait qu'encore une fois, la destruction totale du peuple n'est pas une volonté du Dieu, ni un désir du prophète. Leur désir, c'est que le peuple retourne à l'Éternel. Toutefois, le peuple ne peut pas échapper au jugement moral de Dieu. Et c'est ce que je comprends avec la vision du fil à plomb. C'est la deuxième vision d'Amos. Le fil à plomb. Le peuple, connaissant la loi de Dieu, n'a pas bâti des vies droites et justes. En bon architecte, Dieu, par la bouche d'Amos, désigne les objets, les lieux précis qui ont été construits, qui lui déplaisent et qui seront détruits. La quatrième vision, c'est la vision de la corbeille de fruits. Dieu utilise des images familières du peuple pour lui parler. La fin est imminente et le peuple ne peut échapper au jugement. Amos dénonce une dernière fois cette société où l'honnêteté, la justice et les principes moraux sont sacrifiés à la recherche du profit. Et on le voit avec cette destruction aussi de la nature que nous a expliqué tout à l'heure Christian. La combinaison richesse pour une minorité et éloignement de Dieu font le terreau de l'injustice sociale. Dieu accomplira son jugement et montrera l'insuffisance du privilège d'être le peuple élu. Au chapitre 9, je vois encore une hymne à sa souveraineté et à sa justice, mais aussi j'entreperçois son amour inconditionnel pour son peuple. En lisant la fin du livre d'Amos, avec nos yeux contemporains, je m'émerveille de voir combien le plan de Dieu, depuis le début, suit une logique qui englobe le salut de que sont les promesses, qui englobe le salut de toutes les nations et combien ce plan s'accomplit malgré les infidélités du peuple. Ce sont les promesses d'une pleine restauration. À la fin du livre, Amos laisse entrevoir que les hommes jouiront d'une prospérité matérielle assurée. Le péché les avait à chaque fois empêchés de posséder la terre au cours de l'histoire. Amos sous-entend ici un renversement de situation. Pouvons-nous affirmer qu'avec Amos, on perçoit les prémices du plan de Dieu, qui est le pardon des péchés et la restauration d'une relation avec Dieu par Jésus et pour tous, et la mise en pratique de l'alliance et de la loi réinterprétée par Jésus aussi dans notre dimension sociale et relationnelle. Je voudrais terminer par un petit message que j'ai reçu ce matin, parce que quelqu'un bien sympathique m'envoie encore le passe le mot. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur? Psaume 27, chapitre, verset 13. Et le commentaire de ce passe le mot, c'était « Penser, penses-tu à remercier Dieu pour sa fidélité ?» Et je remercie ce message qui m'est venu droit au cœur. Parce que bien souvent, je me lève le matin et je ne pense pas du tout à remercier Dieu pour sa fidélité. Je pars au travail et je ne pense pas du tout à ce qu'il m'a donné. Donc merci Seigneur pour cela. Amen.